Maintenant, je vous propose, dites-moi, hein, si jamais c'est trop fort, qu'on fasse les réglages, mais ce matin, je vous propose de poursuivre dans la lettre aux Philippiens. Après avoir considéré la prière de l'apôtre au début de la lettre comme une prière à imiter, après avoir considéré dimanche dernier l'affirmation forte du verset 21 du premier chapitre, où Paul dit « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain », je vous propose ce matin de considérer une autre affirmation forte qui se trouve au début du chapitre 2. Je la lis dans deux versions différentes. Tout d'abord, dans la Bible dite à la colombe, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Et puis dans la Nouvelle Bible Second, « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ ». Je vais retenir ce matin pour ce message la deuxième version, celle de la NBS, de la Nouvelle Bible Seconde, Second qui dit donc « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ ». Et j'ai intitulé ce message « Avoir dans l'Église » les dispositions du Christ. Avoir dans l'Église les dispositions du Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Comment comprendre cette exhortation? Et pour comprendre ce que l'apôtre veut dire, il faut bien évidemment le replacer dans son contexte immédiat, que je vous invite à lire maintenant, ou à soit à écouter, soit à suivre dans vos Bibles. Je lis les 11 premiers versets du chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Et je lis donc dans la version de la Nouvelle Bible Second. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après le passage de la semaine dernière, à la fin du chapitre 1, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, passe aux exhortations. Et la première exhortation se trouve à la fin du chapitre 1, au verset 27, où il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. » Paul associe ici à l'exhortation à une conduite digne de l'Évangile, celle de l'unité d'esprit et d'âme. Un accent sur l'unité que nous retrouvons au début du chapitre 2, au début de notre passage. Je relis les deux premiers versets. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayez un même amour, une même âme et une seule pensée. » Paul aborde donc ici le sujet de l'unité dans l'Église. Et beaucoup de commentateurs pensent qu'il le fait parce qu'il y avait des tensions, des discordes dans l'Église à Philippe. C'est fort probable. C'est d'ailleurs malheureusement très humain. Et faut-il le rappeler, les chrétiens ne sont que des humains. À la seule différence des autres, qu'ils se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ont accepté la grâce de Dieu dans leur vie et qu'ils cherchent par l'Esprit à vivre dans la vie nouvelle qu'ils ont reçue de Dieu. Concernant ces tensions existantes dans l'Église à Philippe, en effet, Paul mentionne au début du chapitre 4 deux femmes de l'Église, ses anciennes collaboratrices, Évodie et Syntyche, qu'il exhorte à l'unité, qu'il exhorte à être bien d'accord dans le Seigneur, à avoir une même pensée dans le Seigneur. Chapitre 4, verset 2, « J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être bien d'accord dans le Seigneur. » Notons, pour aller dans le sens de ces tensions dans l'Église, que l'apôtre utilise ici la même expression qu'il utilise au début du chapitre 2 et qui est traduite dans la NBS par « être bien d'accord », mais que l'on peut aussi traduire par « avoir une même pensée ». Paul exhorte donc les Philippiens à l'unité, une unité qui semble mise à mal dans l'Église de Philippe. L'unité, je le rappelle, est un don de Dieu, un don que Dieu nous fait, et nous n'avons pas à la produire. Ce qui nous est demandé, c'est de la garder, c'est de la conserver. Et c'est ce que l'apôtre Paul va écrire dans une autre de ses lettres, sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 3, où il dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Conserver l'unité de l'esprit. Nous avions vu il y a quelques semaines dans le message intitulé « Viens et vois » toute l'importance de cette unité pour l'Église. Je ne vais donc pas revenir dessus ce matin. Et je rappelle qu'il est bien évidemment toujours possible d'écouter les messages, celui-là et tous les autres, sur le site internet de l'Église. L'unité, aussi importante soit-elle, est cependant un sujet parfois mal compris par les chrétiens, qui entendent et comprennent à la place de l'unité, uniformité. Notons que quand Paul parle d'avoir une seule pensée, au verset 2, il veut dire une seule intention, un seul but, c'est-à-dire celui de l'unité. L'unité, c'est avancer paisiblement, ensemble, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. L'unité, ce n'est pas l'uniformité et ce n'est pas la pensée unique. Avancer ensemble, paisiblement, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. Et ces raisons, elles peuvent être nombreuses. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, ce n'est pas le rassemblement des gens qui pensent pareillement. Mais c'est le rassemblement de celles et ceux qui ont accepté le Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Ce qui les unit, c'est le Christ. C'est son salut, c'est son esprit, c'est l'espérance et la foi qu'ils ont reçue, que Dieu a mise en eux. Ce serait réduire l'Église à un simple club, parti ou association, que de chercher à y trouver une uniformité de pensée sur autre chose que sur le Christ et sur son enseignement. L'unité dans l'Église passe donc par l'acceptation de l'autre, que Dieu a autant aimé que moi, avec ce qui nous rapproche et avec ce qui nous éloigne. Mais revenons à notre texte. Paul, au début du chapitre 2, dans notre passage, revient donc à cette exhortation à l'unité. Quel est son raisonnement ? Paul commence son raisonnement au verset 1 par une formulation qui n'est pas forcément facile à appréhender à première lecture. S'il y a donc quelque encouragement, dit-il, dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayez un même amour, une même âme et une seule pensée. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire ici ? Ce qu'il veut dire ici, c'est que l'unité dans l'Église doit être aussi évidente que tout ce qu'il mentionne dans ce premier verset. Et je vais citer un commentateur, Bonnet, qui dans son commentaire sur les épîtres de Paul paraphrase ces deux versets ainsi. S'il est vrai que vous avez trouvé en Christ le Sauveur et dans sa communion intime, quelque consolation pour vos âmes. Si vous avez éprouvé le puissant encouragement qu'il y a dans la charité, dans l'amour pour Dieu et pour vos frères, si réellement l'Esprit de Dieu vous a unis dans une vivante et sainte communion, si tout cela a créé en vous de tendres et profondes affections et de vraies compassions pour les souffrances et la faiblesse de vos frères, alors il est impossible que toutes ces forces divines ne produisent pas d'abord en vous les doux fruits de la plus intime union. En d'autres mots, Paul dit ici que puisque tout cela est vrai, tout ce qu'il dit dans ce premier verset, alors il n'y a aucune raison qu'il ne vive pas l'unité, qu'il ne soit pas bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée. Et il ajoute que cela comblera sa joie de savoir que les choses qu'il mentionne au verset 1 sont présentes chez les Philippiens. Après leur avoir dit cela, après avoir souligné la nécessité et l'évidence de l'unité dans l'Église, Paul va leur dire dans les versets 3 à 5 comment concrètement parvenir à vivre cette unité. Je relis les versets 3 à 5. « Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. » Le moins que l'on puisse dire ici, c'est que c'est pratique et précis. Comment conserver l'unité ? Comment être bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée ? Premièrement, dit Paul, en ne faisant rien par ambition personnelle. L'ambition personnelle n'a pas de place dans l'Église, à aucun moment. Le mot qui est utilisé ici signifie « ambition égoïste », c'est-à-dire l'ambition qui n'a que faire du service des autres et qui ne poursuit qu'une chose, la recherche des intérêts personnels. Or, qu'est-ce que le service dans l'Église ? C'est le service de Dieu, premièrement, et puis le service des autres. Jamais le service de nous-mêmes. Notons que ce sont les ambitions que nous venons de mentionner qui sont souvent à la base des rivalités et autres tensions dans les relations en général et aussi dans l'Église. À ce sujet, Calvin écrivait « L'ambition est le soufflet qui allume toutes les rivalités. » Dans l'Église, pour vivre et conserver l'unité que Dieu nous a donnée, il nous faut mettre de côté, absolument mettre de côté, toute ambition personnelle. Comment conserver l'unité ? Comment être bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée? Deuxièmement, dit Paul, en ne faisant rien par vanité ou par vaine gloire. La vaine gloire ou la vanité, c'est la mise en avant. C'est la recherche des honneurs, c'est agir pour son propre prestige, c'est rechercher l'admiration des autres. Vous le constatez, nous ne sommes pas très loin du point précédent, parce que la vaine gloire, c'est en réalité une ambition personnelle. Dans l'Église, pour vivre et conserver l'unité que Dieu nous a donnée, il faut absolument bannir toute vaine gloire. S'il y a une gloire à rechercher, c'est bien évidemment toujours et uniquement celle de Dieu. Comment conserver l'unité ? Comment être bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée? Troisièmement, dit Paul, en estimant les autres supérieurs à soi-même. Et Paul précise dans l'humilité. Nous allons y revenir. Estimer les autres supérieurs à soi est d'une certaine manière contre nature. Naturellement, nous pensons être meilleurs. Et nous pensons comprendre mieux que les autres. C'est ainsi que fonctionne notre nature pécheresse. Il suffit pour nous en convaincre, si ce n'est pas le cas, de regarder la société dans laquelle nous vivons, et puis nous pouvons encore regarder bien plus près, il suffit de regarder au fond de notre cœur. Notons ici que considérer les autres comme supérieurs, ça ne veut pas dire se dévaloriser. Mais c'est refuser de s'élever. C'est aller à contre-courant de nos penchants naturels à ce sujet. Et on pourrait dire que c'est finalement accorder à l'autre la place que je me serais accordée si j'avais suivi ses penchants naturels en la matière. Dans l'Église, pour vivre et conserver l'unité que Dieu nous a donnée, il nous faut absolument considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Comment conserver l'unité? Comment être bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée? Quatrièmement, dit Paul, en considérant aussi les intérêts des autres. Cette demande va de pair avec la précédente. C'est parce que je considère l'autre comme important, comme supérieur, que je vais aussi considérer ses intérêts et pas juste les miens. Notons ici que si nous considérons les intérêts des autres, si nous les considérons vraiment, alors nous aurons moins de temps pour nos désirs égoïstes. Notons encore que le mot « aussi » est important ici. L'apôtre ne dit pas ici que nous ne pouvons pas avoir des intérêts propres, mais que nous devons aussi nous intéresser à ceux des autres. Il y a donc de la place pour nos propres intérêts. Comment conserver l'unité? Comment être bien d'accord avec un même amour, une même âme et une seule pensée? Cinquièmement, dit Paul, en ayant en nous ou entre nous les dispositions qui sont en Jésus. Et nous voilà revenus à notre point de départ, au verset du départ. Quelles sont ces dispositions qui étaient en Jésus? Notons tout d'abord que la version que j'utilise, celle de la Nouvelle Bible Seconde, traduit « entre vous ». Je crois personnellement que c'est une bonne traduction. D'autres traductions traduisent « en vous ». En laissant penser que c'est d'abord, et peut-être avant tout, dans notre cœur. Alors bien sûr, c'est vrai. C'est dans notre cœur, bien évidemment. Mais l'apôtre est ici en train de parler des relations fraternelles. Il est en train de parler de l'unité dans l'Église. C'est donc entre vous, dans nos relations, que doivent se manifester les dispositions qui étaient en Jésus, pas seulement dans mon cœur il faut que ça se traduise concrètement dans les relations. Bien évidemment, pour que cela puisse se traduire entre nous, il faut que ce soit vrai en nous. Quel programme que celui qui nous est proposé ici par l'apôtre? Un programme qui est tellement différent de tout ce que nous pouvons voir en nous et autour de nous, où règne la compétition en permanence, l'individualisme, l'égoïsme, l'orgueil et tant d'autres choses. Il ne doit pas y avoir de place pour ces choses dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent à mal cette unité que nous avons reçue et que nous devons conserver. Dans l'Église, nous vivons avec d'autres principes. Et ce sont ces principes qui vont nous permettre de vivre unis et dans la paix. Il y a un mot qui résume tout ce que nous venons de dire, qui résume tous ces principes que nous venons de considérer, et c'est le mot « humilité ». L'humilité, je crois, est une vertu spécifiquement chrétienne. Vous le savez sans doute, dans l'Antiquité, c'était quelque chose de méprisé. Et c'est Jésus qui l'a élevé au rang de vertu par son enseignement et par son exemple. L'humilité est une chose étrange. C'est sans doute la seule chose que nous ne possédons pas quand nous sommes persuadés de l'avoir. Notons que cette vertu, elle est bien évidemment aux antipodes de tout ce que notre monde propose. Qu'est-ce que l'humilité ? Quelqu'un a dit à ce sujet, la personne humble n'est pas celle qui pense moins d'elle-même, mais celle qui pense moins à elle-même. En d'autres mots, l'humilité, ce n'est pas la dévalorisation de soi, ce n'est pas la dépréciation de soi. En fait, je crois que l'humilité, c'est porter un juste regard sur soi. La personne humble, c'est celle qui se voit comme Dieu la voit. C'est celle qui se voit à la lumière de la parole de Dieu. C'est celle qui se sait pécheur et perdue, mais au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est celle qui a compris son besoin de Dieu. C'est ce regard sur soi qui va l'amener à poser un autre regard sur les autres, qui va l'amener à poser un juste regard sur les autres. C'est bien parce que je me vois tel que Dieu me voit que je vais pouvoir voir les autres tels que Dieu les voit. L'humilité devant Dieu nous conduit à l'humilité dans nos relations avec les autres. Jésus a donc élevé l'humilité au rang de vertu par son enseignement et par son exemple. Et c'est justement de son exemple que Paul va parler ensuite dans notre texte, dans un des plus beaux textes christologiques du Nouveau Testament, si ce n'est le plus beau. Son exemple qui souligne les dispositions qui étaient en Jésus et que nous devons retrouver dans l'Église. Je relis les versets 5 à 11. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Il y aurait trop de choses à dire ici si nous voulions rentrer en profondeur dans ce texte. Mais j'aimerais noter rapidement quelques points. Dans ce passage, l'apôtre souligne deux grandes choses, deux grands axes. au sujet de Jésus. Il parle de son abaissement et il parle de son élévation. Et la partie qui nous intéresse pour comprendre les dispositions qui étaient en Jésus concerne son abaissement. Son abaissement s'est traduit, dit Paul, premièrement par son humilité. En effet, Jésus avait toutes les raisons de ne pas s'abaisser. Il était vraiment divin, dit Paul. Il rappelle qu'il est Dieu. Comment Dieu, le créateur de toutes choses, pourrait-il s'abaisser au rang de ses créatures? Mais Jésus n'a pas considéré son rang d'égalité avec Dieu comme un obstacle à son amour pour nous, à son incarnation, à son abaissement. Son abaissement s'est traduit deuxièmement par son dépouillement, dit le texte. Paul dit littéralement que Jésus s'est vidé. Il parle très certainement de sa gloire. Il fallait que Jésus laisse de côté sa gloire et sa majesté pour ne pas nous écraser par sa présence. Son abaissement s'est traduit troisièmement par l'acceptation de la condition d'esclave. C'est littéralement ce que dit le texte. De serviteur, mais dans un sens très fort. Il est passé de la gloire dont il s'est dépouillé, dit Paul, à la condition d'esclave, à la condition de serviteur. Quel abaissement, quelle humilité et quel amour. Son abaissement s'est traduit quatrièmement par l'humanité qu'il a accepté d'endosser. Une humanité avec toutes ses faiblesses et toutes ses limites. Quel abaissement pour le Fils de Dieu. Son abaissement s'est traduit cinquièmement et dernièrement, dit Paul, par son obéissance qui l'a conduit jusqu'au don de sa vie sur la croix. Quelles étaient les dispositions de Christ qui nous sont présentés en exemple? Tout ce que Paul dit pour décrire l'abaissement et l'humilité de Jésus n'avait qu'une seule visée, qu'un seul objectif, celui de nous sauver, celui de donner sa vie, celui de faire passer nos intérêts avant les siens, celui de nous servir. C'est pour cela que Jésus s'est abaissé. C'est pour cela qu'il s'est humilié, c'est pour cela qu'il s'est dépouillé en prenant la condition d'esclave et en revêtant notre humanité. Et il l'a fait jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, dit Paul, en donnant l'exemple de Jésus, les dispositions qui étaient en Jésus et que nous devons retrouver entre nous. Dans l'Église. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus. Ce n'est bien évidemment pas la partie du salut qui nous concerne et qui est à imiter, mais celle qui nous concerne, c'est le service. C'est le don de soi pour le bien des autres. C'est la recherche de l'intérêt de l'autre et des autres. Jean écrit dans sa première épître quelque chose qui résume bien ce que nous venons de dire. C'est 1 Jean 3, verset 16, il dit « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » Ça, c'est l'exemple de Jésus. « Nous aussi, dit-il, nous devons donner notre vie pour les frères. » Jésus avait une attitude de serviteur et il nous l'a laissé en exemple. Mais comment savoir si j'ai une attitude de serviteur? J'ai lu quelque chose à ce sujet qui m'a frappé et je vous le livre tel quel. Comment savoir si j'ai une attitude de serviteur? je reconnais que j'ai une attitude de serviteur, ou pas, à la manière dont je réagis quand les autres me traitent comme un serviteur. À méditer. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Chers amis, l'Église est le corps de Christ dont Christ est la tête. Et il faut que l'Église vive des dispositions qui étaient en Jésus, en celui qui a donné sa vie pour elle. Et ces dispositions nous amènent à nous donner à notre tour, bien évidemment en premier pour Dieu, mais aussi pour nos frères et nos sœurs. Et elles nous amènent à vivre dans l'unité et dans la paix. Ces dispositions sont aussi un témoignage, notre témoignage. J'ai lu que Gandhi, à un moment de sa vie, a été très intéressé, semble-t-il, par l'enseignement du Christ, mais qu'il aurait été déçu par les chrétiens. Il aurait dit « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Ils sont si différents du Christ. » Je ne sais pas si ces mots ont été vraiment prononcés par Gandhi. Mais quoi qu'il en soit, il souligne la triste réalité du décalage qui existe parfois, souvent, entre les dispositions qui étaient en Jésus et celles qui sont en nous et entre nous. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être toujours plus comme lui, avec en nous et entre nous les dispositions qui étaient en lui. Ce sera premièrement pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume et aussi pour notre bien. Amen.